Bonjour Paul Carta, bienvenue à Dounia Reçoit, l'émission de la Tribune des Vagabonds du Rêve. Je te remercie d'avoir accepté de passer un moment avec moi. Et on va parler de ton œuvre plus en général et particulièrement d'un roman très très spécial que tu as écrit qui s'appelle Crime temporel, que tu as publié en 2008 chez Mélis. Alors, je le montre là pour les gens qui ont envie de voir à quoi ressemble la couverture, qui est une couverture très belle d'ailleurs, hein,
Oui,
qui
c'est de Manchot, oui.
de Manchou et qui effectivement est dans les contrastes, hein, entre la tenue années 20 ou 30 de l'héroïne et puis sur l'espace sur lequel elle est, dont on parlera tout à l'heure, le lieu où elle est plutôt. Donc, tu es écrivain, tu écris, tu es plutôt, on peut dire, romancier,
Oui, plutôt des romans fleuves même.
bon, on va dire des romans des cycles, parce que fleuve,
Voilà.
c'est un peu péjoratif. Donc,
Ah,
tu
moi,
écris
je
des
ne le
cycles.
prends pas comme péjoratif. J'aime bien les grandes sagas qui durent. Donc, un roman fleuve, pour moi, c'est très bien.
D'accord, alors des romans fleuves qui sont cependant des cycles, hein. Ce sont des romans qui sont construits, ce sont des, enfin, on le dit tout de suite, c'est de l'imaginaire, c'est de la fantaisie, de la science-fiction, donc ils répondent à certains critères littéraires et en même temps, ils sont très, très originaux. Donc, le plus gros de tes cycles, le plus grand qui s'appelle, qui t'as publié chez l'Archipel, qui s'appelle donc le Chronique d'au-delà du seuil, qui est fait de plusieurs titres, hein, je vais nommer quelques-uns, donc La quête du prince boiteux, Le siège des dieux, Les rescapés de la cité maudite, La cité qui grandit. Tu as aussi écrit Petit Dieu en
En fait,
deux volumes.
Petit Dieu a été réédité, c'est le tome 3 et tome 4 de l'archipel
Ah,
de l'édition,
d'accord.
voilà.
Donc, qui avait été remarqué et nominé, enfin, qui a eu un prix de l'imaginaire
Ouais,
aussi.
non, non, il était nommé
Il
pour
était
le
no
prix du
nommé
roman aux Imaginales d'Épinal.
d'Épinal en 2005.
Voilà.
Voilà, au moins là, si je ne me trompe pas. Donc, le roman donc d'Agatha Christie est un peu ancien, mais bon, les livres, non, c'est pas des tomates, hein, donc au contraire, plus on a de recul et mieux, je pense qu'on peut en parler et les savourer. Donc, j'ai choisi ce roman. Je t'ai rencontré à Nice Fiction et j'ai eu le plaisir d'échanger avec toi et je l'ai lu tout de suite après. Donc, je vais arrêter de bavarder, je vais te donner la parole. Je vais te laisser te présenter comme tu veux, ta formation, tes goûts littéraires, parce que l'intérêt, c'est que tu n'es pas entre guillemets qu'un basique écrivain d'imaginaire. Tu as une approche de la littérature beaucoup plus large et croisée, d'où d'ailleurs ce roman. Voilà, donc je te donne la parole à toi.
Merci. Oui. Eh ben, je suis écrivain depuis pas mal d'années maintenant. J'ai toujours eu envie d'écrire. J'écris de l'imaginaire parce que c'est ce que je lisais quand j'étais gamin, donc j'ai toujours baigné là-dedans. Et ce que j'aime, je ne sais pas si c'est ça qu'on parle, c'est l'intertextualité, c'est-à-dire mélanger différents genres et m'essayer un peu à tous les genres. L'espèce opéra et l'anticipation dans l'Échiquier des étoiles, les voyages dans le temps et le roman policier dans Crime temporel et la fantasy, la light fantasy ou l'heroic fantasy, un mélange des deux dans mon cycle des Chroniques au-delà du seuil. J'ai aussi écrit un roman jeunesse, Après demain les chiens, un conte de Noël. Bon, bref, je touche un peu à ce que j'aime, en fait, j'écris ce que j'aime et après bah, je le présente aux éditeurs et puis ça marche ou pas. Ma formation, bah, j'ai un DEA de lettres modernes, je crois qu'on dit Master 1 maintenant, mais j'en suis pas sûr, ça a changé tellement.
Oui.
J'ai fait ma maîtrise sur Lovecraft, que j'avais rencontré, l'appel de Cthulhu, les jeux de rôle, dont j'étais maître du jeu. J'ai fait mon Master 1, si ça s'appelle comme ça, sur Tolkien, hein, à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'appareil critique sur Tolkien, encore à cette époque, c'était en 89. Donc il n'y avait pas grand-chose, surtout en France.
Et dis-moi, excuse-moi, ces
Oui.
masters, tu les as passés à Nice?
Oui, tout à fait. En plus, oui, c'est à Nice. Oui.
Ils
C'est à
sont
la fac de lettres de Nice.
Ils sont peut-être à la bibliothèque de la fac de lettres de Nice.
J'espère que non, parce qu'ils ont vachement vieilli. Et puis,
Ah
soyons clairs, d'abord, je ne lis pas l'anglais, alors l'appareil critique sur Lovecraft ou sur Tolkien, en anglais, je risquais pas beaucoup d'y accéder. Et puis, ce sont il y a beaucoup mieux qui est sorti, que ce soit sur Tolkien, sur l'analyse de ses œuvres, ou sur Lovecraft aussi, qui depuis, c'est pas vraiment très utile. Par contre, j'ai à la fac, il doit y avoir un article que j'ai écrit sur qui s'appelle Vie et mort de l'extraterrestre. Qui est dans une sortie du Centre d'études de la métaphore. Et ça a été publié, je crois, vers 90. Et celui-là, cet article-là, encore, je crois qu'il parle de l'origine extraterrestre de la naissance de la littérature, et ensuite analyse comment petit à petit les écrivains de science-fiction, surtout dans les 20 dernières années, s'en passent de plus en plus et n'ont plus besoin de cette image de l'altérité pour nous confronter en quelque sorte aux autres. Cet article doit pouvoir se trouver à la bibliothèque universitaire.
On regardera en tout cas.
Sinon, je suis prof de français
Oui.
au lycée à Nice, après avoir passé une vingtaine d'années à Paris, et puis voilà, j'écris en même temps.
Oui, comme beaucoup d'enseignants en fait de littéraire, tu as une occasion de rencontrer. Ben, enfin, on en parlera peut-être plus tard après, si tu veux, parce que tu m'as dit quelque chose sur tes élèves et j'aimerais bien qu'on échange aussi là-dessus quelques minutes, si ça t'ennuie pas.
On
Mais
peut
là, du
parler
coup,
des élèves pendant les mois de juillet et d'août. On peut.
c'est un gros mot. Non, mais ils ont quand même gagné un prix,
Mais
tes
les gars,
élèves.
tous les... En fait, ça fait 4 ans que je le gagne.
Voilà, donc je pense que
Ben,
c'est
eux le
plus
gagnent, c'est moi,
que.
je les pousse, mais
C'est plus que des rédactions ou des dissertations.
bon. Ouais, on peut en parler. Bon, si on a...
Oui,
Ouais,
vas-y, je t'en prie.
le Festival du Livre de Nice, organisé donc, par la mairie, a aussi une association qui s'appelle Lecture pour tous, où elle invite des écrivains à passer dans les écoles primaires, les collèges. J'y ai participé d'ailleurs une année, il y a 3-4 ans. Et elle organise aussi un concours de nouvelles, donc, ce qui est très intéressant. Alors j'oblige, manu militari, mes élèves à participer à ce concours de nouvelles. Il y a un thème qui change chaque année. Et bizarrement, ça fait 4 ans que je gagne, ou du moins que mes élèves, en tout cas, au moins le premier prix. Des fois, ils ont aussi le 2, le 3 et le 4, mais ils ont toujours au moins le premier prix. Donc ça veut dire que j'arrive à peu près à les pousser suffisamment. Pourtant, je suis aux Eucalyptus, c'est-à-dire un lycée technique. Un lycée spécialisé dans l'industrie et qui a une prépa d'ingé. Donc, bon, je les pousse quand même à être un peu plus littéraire que cela.
Et oui, puis à faire fonctionner leur imagination
Tout à fait. Et apprendre les techniques, bien sûr, d'écriture pour
d'écriture.
intéresser le lecteur.
Oui, donc c'est déjà un travail, c'est encore un travail sur l'écriture, comme tu parles, on parlera plus tard de cette intertextualité à propos de, ben, d'ailleurs, de crimes temporels, déjà, on peut en parler. Et je me demandais si tu as l'esprit un écrivain ou deux ou un film, quelque chose qui t'a marqué, qui a pu t'amener vers l'imaginaire ou renforcer ce penchant que tu as pour ce type de littérature.
Quand j'étais jeune, à ce moment-là, j'étais formé avec Strange, Spécial Strange, les super-héros, les Marvel surtout. Un peu de DC, mais beaucoup de Marvel. Donc, je suis tout à fait ravi de les voir sur écran, enfin crédibles maintenant. J'ai lu beaucoup de bibliothèques vertes, comme les gens de mon époque, je suppose. Philippe Eblis est un grand auteur de bibliothèques vertes. Je ne sais pas si on l'a un peu oublié. Moi, j'ai tous ses bouquins. Et Philippe Eblis était un auteur d'imaginaire, de science-fiction, etc. Il a quelques-uns de ses romans en bibliothèque verte. Pourtant, ils sont vraiment excellents. Et on peut toujours les relire aujourd'hui. C'est peut-être ce qui m'a amené petit à petit à m'intéresser aux univers imaginaires. Et aussi, j'aime bien l'idée que le roman crée une réalité j'aime bien pénétrer dans le réalisme, créer du réalisme en quelque sorte, tout en faisant un pas de côté sur l'imaginaire, comme je le fais avec la vie d'Agatha Christie, un peu revisitée dans mon roman. Parce que c'est elle l'héroïne, il fallait quand même que je sois réaliste, mais arriver à la transporter dans un futur non prévu par elle.
Et effectivement, oui, on va en parler de Agatha Christie et de tout le travail d'ailleurs que tu as fait autour de, pour arriver à ce roman. Et en fait, puisqu'on en, on en arrive là, je voulais te demander la place alors, de la littérature dans tes écrits, hein, pas en tant que lecteur cette fois, mais en tant qu'écrivain. Comment tu construis, quand tu as construit pour les crimes temporels, tu, quand on lit les crimes temporels, indépendamment du fait que c'est une histoire de science-fiction, il y a derrière un travail sur l'auteur dont tu, qui était une personne réelle, autrice de fiction, mais de polar, plutôt de d'énigmes, en fait c'est des livres à énigmes un petit peu.
Des romans policiers,
toujours mais très construit parce que c'est comme, comme un jeu, comme tu dis que tu es un joueur aussi, c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Et comment tu as fait pour prendre cette personne, déjà pourquoi elle, et pour en faire un personnage de roman?
Parce que c'est un personnage fascinant, Agatha Christie, sa vie elle-même est fascinante. C'est une femme qui d'abord est l'écrivain le plus vendu du monde, elle a vendu plus de 2 milliards de romans dans le monde entier. Elle est traduite. Et c'est l'auteur le plus traduit. Elle a une vie fascinante. Elle faisait du surf dans les années 20. Elle a traversé le bush australien à cheval. Elle se baladait dans les fouilles archéologiques, dans ce qui est l'Irak aujourd'hui, pratiquement seule. Elle partait seule en voyage à l'autre bout du monde. Enfin, c'est une personne extraordinaire et ses romans sont extraordinaires. C'est un jeu permanent. C'est effectivement un jeu. C'est ludique. C'est ce que j'explique toujours à mes élèves. Le but, c'est pas de lire le livre, c'est de se confronter à l'intelligence du créateur et d'essayer de résoudre l'énigme avant que la solution soit donnée. Et c'est ça qui est fascinant avec Agatha Christie. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre en lui rendant hommage. Mais je me suis aussi inspiré, bien sûr, du cycle d'Elijah Bailey, d'Asimov. Le cycle qui précède, enfin qui suit le cycle des robots, qui précède le cycle trentorien, qui précède le cycle de fondation. Donc c'est le grand arc de l'œuvre d'Asimov et le cycle d'Elijah Bailey, c'est de la science-fiction et des whodunits à la Agatha Christie, puisqu'on ne sait jamais qui est le coupable avant la fin, parce qu'il y a eu un meurtre et il faut le résoudre, etc., etc. Et donc j'ai voulu mélanger tout ça. C'est pour ça que l'univers de science-fiction que je propose dans Crime temporel est très asimovien. Il est très froid, il est très clinique, il est très, il est très basé sur une volonté d'effacer l'individu au service de la société. Et c'est un peu ce qu'Asimov propose dans le cycle des robots, souvent.
Et du coup, tu as pris une... Tu es parti d'une réalité, dans la vie d'Agatha Christie. Un jour,
oui, sa disparition, ouais. Voilà. Qui n'est pas résolue encore. Oui,
tout à fait. Parle-nous de ça, alors.
Sa disparition, on en a fait des films, comme je l'explique dans le bouquin. Même le Docteur Who, on a fait un épisode, cinquième ou sixième saison, avec David Tennant, je crois. C'est fascinant, cette disparition. Et c'est le premier exemple de peopleisation d'un écrivain, d'ailleurs, puisque c'était en 26, et personne ne connaissait vraiment Agatha Christie, mais sa disparition a entraîné une sorte de boom médiatique dans les journaux de l'époque, que je relate d'ailleurs dans le livre.
Tout à fait.
Et c'est fascinant de voir tout à coup un écrivain projeté sur le devant de la scène comme ça. Pas un écrivain comme Victor Hugo, qui était un homme politique aussi, donc qui était tout le temps sur le devant de la scène, mais quelqu'un qui a disparu en plus. Son autobiographie, sa biographie officielle, contrôlée par sa famille, ne dit rien sur cet épisode. Mais on a des historiens qui ont fait des recherches et j'ai voulu m'insérer dans cette réalité de la vie d'Agatha Christie et ce petit laps de temps qui permet justement de faire entrer l'imaginaire, puisque tous les imaginaires sont possibles à partir du moment où on ne sait pas du tout ce qu'a fait le personnage, ce qu'a fait la personne réelle.
Tout à fait, effectivement. Et du coup, qu'est-ce qui lui arrive, cette Madame Agatha Christie,
dans la réalité, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait. Voilà. Enfin, on le sait plus ou moins, je le raconte à la fin quand même.
Mais bon, qu'est-ce qu'en a fait Paul Carta, disons?
Moi, je l'entraîne dans un futur grâce à une machine temporelle qui est en expérimentation. Et c'est le premier être humain à être extrait du passé, tout simplement parce que dans la société lunaire sélénite où elle aboutit, il n'y a pas eu de crime depuis 200 ans, il n'y a pas eu une gifle. Ils ont enfin réussi à supprimer la violence dans une société. Et donc, ils ont eu un crime. Évidemment, ils ont eu un crime et ils ne savent pas quoi faire. Et donc, ils vont chercher Agatha Christie pour résoudre le crime, puisque, a priori, c'est elle qui, c'est la seule qui puisse résoudre un crime impossible dans une chambre close, etc., etc.
Qui est en l'occurrence une chambre close dans une base close, parce que c'est sur la Lune, c'est un univers, effectivement, c'est très froid, comme tu disais, c'est enfin froid le décor. Quand on regarde par la fenêtre,
On
bah,
voit la
c'est tout
lune.
gris, hein,
Oui,
la Lune est
oui.
grise, y a rien, on voit la Terre, mais manifestement, la Terre a eu des soucis, elle aussi.
Oui, tout
Et
à
du
fait.
coup, et en fait, on voit comment ce personnage. C'est ça qui est drôle, c'est qu'elle pose des questions, mais elle n'a pas forcément des réponses, puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de lui dire, comme on dit dans Stargate, je sais plus comment ça s'appelait, le truc temporel, là,
Oui, le paradoxe, hein, pour éviter
non,
qu'elle.
pas paradoxe, directive première ou quelque chose
Ah oui,
comme ça, voilà.
c'est dans Star Trek, tout à fait, la
Star Trek,
directive.
voilà,
Oui,
la
mais
fameuse
c'est
directive.
pas tellement ça, la directive première, c'est plus de ne pas influencer,
De pas intervenir, mais il y en a une
de
sur le
pas.
temps aussi, je crois.
Oui, c'est ça, oui, effectivement, oui.
Et du coup, et en même temps, il faut qu'elle trouve, parce que les autres ne doutent pas une seconde qu'elle va trouver l'assassin.
Je me suis moins intéressé à l'intrigue qu'à la construction du personnage. Hein, parce que je voulais vraiment qu'elle soit réelle. Hein, je voulais vraiment essayer de comprendre qui est Agatha Christie. Et bon, c'est pas toujours évident de se mettre dans la peau d'une femme, hein, de créer une femme pour un auteur homme et de créer une femme des années 20, mariée avec une gamine, avec une enfant, et d'essayer de comprendre par sa littérature et par sa autobiographie. Comment elle verrait les choses, de quel œil elle verrait les choses, ou quelles questions elle poserait, ou quelles sont ses interrogations. L'intrigue, est une partie de l'histoire et l'autre partie, c'est la création de ce personnage, en quelque sorte.
Le personnage qui doit s'adapter effectivement à une société dont qu'elle ne comprend pas, puisque c'est des siècles en avant, et puis qui en même temps doit essayer de comprendre comment elle fonctionne. C'est ça qui est intéressant aussi dans l'intrigue, parce que ça montre bien qu'on peut pas prendre un policier doit connaître sa société dans laquelle il vit.
Oui.
Donc, et elle, c'est pas son cas du coup. Il faut qu'elle comprenne des choses qu'on ne pense pas forcément à lui dire, parce que ça va de soi dans cet univers où elle se retrouve.
Oui, c'est un peu l'idée du Candide, hein, qui débarque dans une société, qu'on utilise souvent, que ce soit un amnésique ou un étranger, etc. Mais là, c'était l'idée de comprendre le monde et un monde que j'ai voulu quand même de science-fiction crédible et un peu complexe quand même.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ça aussi dont je voulais parler avec toi. C'est que cet univers que tu crées, et c'est aussi l'aspect de écrire de la science-fiction. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est la crédibilité, mais même scientifique.
Oui, parce que je suis un lecteur de la vieille science-fiction, donc de Heinlein, de Simak, de tout d'Asimov. Donc, et pour moi, la SF doit être crédible. Et donc, il y a un aspect scientifique qui, bien sûr, est du technobabble, mais qui doit quand même donner l'impression que ça peut exister. Et j'ai toujours, effectivement, des explications scientifiques que je vais chercher. Pour essayer d'accréditer l'existence de la société que je crée. Parce que bon, j'ai un peu de mal à écrire de la science-fiction si je ne suis pas cohérent par rapport scientifiquement, par rapport à ce que je décris. Par exemple, la destruction de la Terre, ou du moins la disparition de l'atmosphère de la Terre, j'ai vu l'article là-dessus, je cherchais, mais j'ai trouvé un article effectivement qui expliquait comment, par un effet de fronde gravitationnelle, effectivement, comment dirais-je, une éruption solaire pouvait effectivement balayer une planète et donc pourrait pratiquement la stériliser complètement. Et donc, c'est ce que je décris par exemple. Parce que je ne voulais pas décrire la Terre la détruire par une météorite ou par une guerre nucléaire. Tout ça a déjà été fait. Il faut même essayer de trouver quelque chose d'original.
Oui, c'est effectivement original parce qu'on n'y pense pas et c'est et pour le coup, c'est la faute de personne.
Pour une fois.
Voilà, c'est pas on s'est pas mis dessus à coup de bombe atomique. Mais du coup, quand tu crées cet univers, tu t'appuies sur donc tu dis tu fais des recherches.
Beaucoup,
Bon,
oui.
et ce qu'il y a, c'est que ce qui est étonnant, c'est que ce qu'on voit, c'est finalement, à part bien sûr la machine à remonter le temps, c'est très, on peut très bien imaginer quand on voit maintenant les projets dans lesquels les agences spatiales se lancent, ce que tu décris est plausible en tout cas.
C'est ce que j'essaie de faire
Voilà.
hein, dans ma science-fiction, en tout cas, d'être le plus
Voilà.
plausible possible.
Dans Asimov, il y a un truc qui s'appelle l'hyperespace. Ils font des bonds, ils traversent la galaxie. C'est un
Alors
peu.
ça, c'est ce que j'ai écrit dans l'échiquier des étoiles.
Ah, je ne l'ai pas lu
Bon,
celui-là.
voilà.
D'accord, il faudra
Et
que
ça,
j'aille le
là,
lire.
pas de problème. Là aussi,
Ouais.
j'ai utilisé l'hyperespace, même si je
Oui.
l'appelle pas hyperespace. Mais il n'y a pas de problème. Je ne peux pas lutter contre la théorie de la relativité. Donc, automatiquement, je suis obligé, effectivement, d'expliquer comment un vaisseau spatial peut arriver à voyager jusqu'au noyau galactique. Et ça, oui, j'ai fait d'autres. J'ai travaillé sur le voyage spatial aussi dans d'autres romans. Et on est obligé. Enfin, pour moi, je suis obligé. Je suis obligé. Je suis pas Jack Vance, même si j'adore Jack Vance. Ces vaisseaux spatiaux décollent et partent. Personne ne se demande comment ils fonctionnent.
Comment ils sortent de
Mais voilà,
l'atmosphère, oui.
Mais moi, j'ai besoin. Peut-être que c'est pas très. Comment dirais-je? C'est pas très sain. Parce que j'aime beaucoup aussi ceux qui, comme Jack Vance, font ce qu'ils veulent avec les vaisseaux spatiaux et les voyages, et puis on y va. Je monte dans le vaisseau, j'enclenche et je pars. Ou comme John Carter, après tout, qui rêve de Mars et soit hypnotisé par Mars pour s'y retrouver, quoi. À la limite, j'aimerais bien arriver à écrire des trucs aussi fantaisistes.
Oui, c'est effectivement, ça fait partie d'un, c'est un des biais effectivement de la science-fiction. Mais j'ai l'impression que maintenant, on risquerait peut-être moins à écrire des choses qui ne soient pas avec des tas de règles mathématiques derrière.
Oui.
Je m'en pas encore que non, ça, il y a encore des écrivains
Bordage,
qui,
s'en
oui.
moque, s'en moque. Souvent, les sciences françaises, surtout les années 80, s'en moquaient pas mal. Mais moi, j'aime bien être crédible scientifiquement le plus possible, en tout cas.
Bah, disons, bordage, il y a quand même des voyages qui durent des décennies. Les gens dorment et puis,
Oui, il y a ça, mais
oui,
bon,
il y a
ça doit être
ça.
crédible dans le fait de la cryogénisation, etc.,
Oui, c'est ça,
etc. Il
oui.
y a tout ça. Bon.
Alors, donc, pour continuer sur mon petit questionnaire, en fait, dans cette société, ce qu'on se rend compte, c'est que la Lune, donc il y a une base lunaire, on est dans un laboratoire, un lieu fermé, et comme en fait les hôtels sur les îles, hein, bah, les fameux
Oui.
Dipti Negra par exemple, et du coup on se retrouve en. Ils sont isolés, ils sont menacés par les Martiens qui sont des humains. On est entre humains là-dedans. Et du coup, ils survivent en fait en monnayant des objets qu'ils sont les seuls à pouvoir aller chercher sur Terre grâce à cette machine
Oh
ou dans
non,
les
ils y
décombres.
vont. Ils
Dans les
vont
décombres
des
aussi,
vaisseaux,
oui.
oui, ils y vont dans des vaisseaux spatiaux tout à fait normaux. Oui, en fait, ils ont gardé les banques de données, donc ça leur permet de retrouver les vieux coffres-forts, les sous-sols des musées, mais aussi des agences de recherche ou des laboratoires de recherche. Comme tout a été détruit à la surface, il ne reste plus que ce qui est dans le sous-sol. Et c'est ça qu'ils monnaient en quelque sorte à Mars. Qui est habité par des Martiens qui, eux, sont en évolution beaucoup plus forte et beaucoup plus constante.
Et oui, puis qui sont beaucoup moins, disons, moins pacifiques.
Ils n'ont pas les mentors,
Voilà.
c'est-à-dire l'appareillage qui permet à la société lunaire d'éviter tous les conflits et toutes les violences qui sont intrinsèques à une société humaine, de toute façon.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça, c'est l'aspect, je dirais, un peu cyber-humain qu'il y a dans le roman. C'est qu'il y a une transformation des individus depuis l'enfance. On les on les, oui, c'est, je sais pas, des cyborgs, on les transforme, ils sont même un peu mutilés, et puis petit à petit, ils ont une maîtrise totale en fait de leurs émotions.
Pas volontaire, hein, mais en tout cas,
Ils
leurs émotions sont
sont
moins
jugulés,
fortes,
oui.
voilà, sont jugulées par un appareillage interne qui agit sur la plupart, sur l'amygdale, les glandes surrénales, etc., etc., et qui évite effectivement tout excès d'adrénaline, toute action trop aiguë, en quelque sorte.
Et du coup, c'est...
Moi, non, c'était un peu. Ben, en fait, c'est l'essence du classicisme, c'est le théâtre classique, inspiré du théâtre grec, c'est pour éviter l'hubris, hein, c'est-à-dire tout ce qui devient violent, tout ce qui devient individuel, etc. Et en fait, les sociétés, ils ont réussi à le faire, même, mais peut-être en effaçant un peu de l'imagination ou le fait d'être créatif ou d'être. Ou d'être, j'arrive pas à trouver le mot, intempestif, sauf l'enfance. C'est d'ailleurs comme ça que le voyage dans le temps est né, grâce aux rêveries d'un gamin qui se promène dans la Renaissance, qui est sur la Lune, et qui lisait l'exploration du temps de George Orwell. L'enfance est encore, où quand le mentor n'est pas encore régulé, ça permet encore d'avoir certaines idées, certains flashs, certaines poussées qui font que l'on peut avoir des idées originales. Mais bon, je ne sais pas du tout comment marche ce machin. Je
Non,
l'explique,
voilà,
mais
pour là,
bon,
pour
mais
le
c'est
coup,
encore une fois,
c'est
c'est du technobubble, c'est
voilà.
voilà.
Là, pour le coup, c'est de la SF, mais je ne sais pas si c'est souhaité. Bon. C'est une sorte de... Oui, c'est une société qui va jusqu'au bout de quelque chose qui forcément n'est pas... Enfin, on va le voir, qui les désarme aussi.
C'est l'interrogation qui se pose à la fin du cycle de fondation, à la toute fin, c'est-à-dire le choix entre fondation ou Gaïa, qui se pose à la fin de Terre et Fondation. Est-ce qu'il faut choisir Gaïa, une sorte d'unité globale, ou est-ce qu'il faut rester sur l'idée de fondation parce que la fondation est basée sur les marchands sont très agressifs, ils sont et cette idée de l'individu, est-ce qu'il faut promouvoir l'individu dans son extrême, hein, ou est-ce qu'il faut aller vers une communauté beaucoup plus comment dirais-je, beaucoup plus regardante sur les interactions sociales? Et c'est un peu aussi ça qui mais c'est au lecteur moi je n'ai pas de réponse, c'est au lecteur de
Oui.
choisir, hein. Comme dans la fin de Fondation, le choix entre Gaïa et Fondation doit se faire sur tous les éléments qui sont racontés dans les deux derniers tomes. C'est vraiment très asimovien l'univers que j'ai créé finalement. Oui.
Et c'est un monde fermé.
Oui,
C'est un
mais bon,
monde
ça
fermé.
c'est normal pour un Agatha Christie. Les Agatha Christie se passent sur des îles ou dans des maisons où il y a de la neige autour, donc on peut pas venir, ou dans des manoirs assez éloignés de tout. Donc c'est le jeu du whodunit, c'est qu'il faut quand même un endroit clos où tout le monde se connaît et où on peut interroger 7-8 personnes assez facilement et qui toutes sont en interaction entre elles.
Et effectivement, là, je me disais, est-ce qu'en fait, cette base lunaire, pas Renaissance, mais la base même scientifique où se passe l'histoire, n'est pas un miroir de cette femme, de toutes ces chambres closes, tous ces mystères en chambres closes
Oui, c'est pour ça que
qu'on...
j'ai mis le plan. Parce qu'il y a toujours
Oui,
il y a aussi un
c'est
plan
vrai.
dans les Agatha Christie, ouais, parce qu'on voit le plan qui forme un cercle, et le cercle forme un autre cercle, etc. Et en fait, cette idée d'enfermement, et le cercle qui continue tout le temps, etc. C'est pour ça que j'ai créé cette structure-là. Alors, en forme aussi d'araignée, puisqu'il y a des monorails qui mènent vers la ville ou vers
Oui.
le laboratoire d'expérimentation, etc. Ça, tout ça permet effectivement d'avoir une sorte de roue. Qui montre bien que tu as une continuité permanente et un retour aussi à la base du roman policier tel que l'écrivait Agatha Christie dans les années 20.
Et du coup, comment dire, Il y a quelque chose de très intéressant aussi. C'est un moment, on lui demande d'enquêter, donc là, c'est l'aspect, c'est le déroulement du livre et on laissera les lecteurs découvrir. Mais il y a un moment aussi où il lui demande de jouer du piano, de leur faire un petit concert. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que finalement, ils sont allés chercher les compétences policières de quelqu'un qui n'est pas policier et ils lui ont demandé aussi de jouer d'un vrai instrument qu'ils ont ramené de la terre. Donc, comment tu as eu cette idée? Parce que les instruments de musique.
En étudiant la biographie de la Catrici, j'ai vu qu'elle avait fait les études pour être concertiste. Ensuite, dans le fait qu'il ramène des choses, on peut imaginer qu'il y ait des très vieux pianos, des pianos de concert extrêmement chers, avec une valeur historique ou une valeur comme un Stradivarius dans la facture. Et puis, je me suis dit que c'était le bon moment pour qu'elle commence à grâce à la musique, qui permet de penser à autre chose, de trouver qui était le coupable finalement à ce moment-là, et puis ensuite de préparer le piège que préparent toujours les investigateurs dans les Agatha Christie, c'est-à-dire à partir de là de créer. Mais bon, le concert, c'est un peu comme les discussions entre elle et l'historienne, la jeune femme
Oui, tout
qui
à
l'a fait
fait.
venir. C'était vraiment pour essayer de créer Agatha Christie. Et c'est pour ça qu'elles ont des discussions de filles, hein. Ou du moins ce que moi je peux imaginer comme une discussion de filles, pas une bataille de polochon naturellement. Mais l'idée c'était de créer le personnage d'Agatha Christie et de vraiment l'ancrer dans l'idée que même si on allait ensuite ch chercher des choses sur Agatha Christie, on retrouvera des choses que moi j'ai écrites et que j'ai mises dans le livre. Donc on pourrait être le plus réaliste possible, quoi.
Et justement, tu parlais tout à l'heure d'intertextualité. C'est quelque chose qui est assez visible ici, s'il s'agit de croiser des écrits qui ne sont pas forcément de toi, puisque tu as repris des extraits de journaux, des extraits de son journal à elle aussi. Il est
Ah,
réel,
de
son
tout fait.
journal?
Oui, bien
Oui.
sûr, ce journal
Donc voilà, c'est comment tu as travaillé cette matière et comment tu as réussi à la. C'est un tissage, quoi, en faire un
Ah, c'est oui,
tissage.
complètement. Toutes
Voilà.
les épigraphes, effectivement, sont toujours coordonnées avec le chapitre et l'action principale du chapitre, ce qui demande effectivement beaucoup de travail, parce qu'il a fallu relire, aller derrière moi, toute l'intégrale Agatha Christie dans la version du masque. Donc, je les ai lues au moins tous 4 ou 5 fois.
Ah
Il
oui.
y en a certaines qui ont. Bon, par exemple, pour le poulet, on ne dit pas au lecteur ce qu'est le poulet, mais il a fallu du temps pour trouver une mention d'un poulet ou d'une poule dans tous les Agatha Christie. Et le mettre au moment où le poulet mourait, ce qui était important, parce qu'il
Oui.
faut le voir dans l'histoire. Mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est que pour moi, il faut accréditer. Et puis, j'utilise beaucoup les épigraphes dans mes bouquins. C'est une réminiscence de Dune, de Frank Herbert, où les épigraphes forment vraiment la mystique du Muad'Dib, de celui qu'il va être. Et même dans L'Empereur Dieu, toutes les épigraphes sont de Arcalada. Et finalement, on s'aperçoit qui est vraiment Arcalada à la fin de L'Empereur Dieu. Et tout ça fait que on est dans une sorte de cycle et l'univers prend vraiment un sens plus grand avec les épigraphes, avec toute cette construction. Et effectivement, pour moi, c'est de l'intertextualité, mais c'est aussi très basé sur Umberto Eco. Parce que j'adore Umberto Eco, je trouve qu'on ne le lit pas assez. Le nom de la rose est évidemment intertextuel, puisque un neutre, jusqu'au XVIIIe siècle, on utilise toujours, on le voit avec Montaigne, les classiques, les Grecs et les Romains, les anciens, pour accréditer même quelques pensées que ce soit. C'est ce que fait Umberto Eco. Puisque sont censés être les mémoires d'un moine du XIIIe siècle. Et donc, il insère des passages en latin, etc. C'est ce qu'il fait surtout dans Le Pendule de Foucault, qui est sans doute son meilleur roman, le plus intéressant et le plus intéressant au niveau de notre compréhension du monde aujourd'hui. Et là aussi, il montre bien tout ce que l'on peut transformer, tout ce que l'on peut utiliser, qui vient du passé ou de la littérature, et où la littérature finit par créer le monde, puisque c'est ça ce qui se passe dans le pendule de Foucault. Donc c'est toutes ces influences qui font que je travaille beaucoup sur cette intertextualité.
Donc, du coup, et l'intertextualité, là, on va peut-être sortir de crime temporel, parce que quand je t'ai rencontré au festival enfin, Nice Fiction en juin, tu m'as parlé d'un projet sur lequel tu travaillais et où justement il était beaucoup question de littérature. Là, pour le coup,
Oui.
c'était peut-être plus de l'imaginaire,
Si, c'est toujours
mais
l'imaginaire
c'est
parce
toujours.
que, oui, parce que, mais là, c'est du fantastique, du mysticisme. Oui, en fait, mon dernier roman, que j'attends qu'un éditeur l'accepte, ce qui n'est pas toujours évident parce que c'est quelque chose de complexe, parle d'un secret qu'aurait découvert Victor Hugo dans les séances de spiritisme qu'il avait fait
Ah
pendant
oui.
10 ans à Jersey. Et c'est un secret uniquement accessible aux poètes. Une forme de mysticisme particulière. Il embarque Baudelaire, Verlaine. Et s'il y a Verlaine, il y a Rimbaud. Et voilà, tous nos grands écrivains, en quelque sorte, pourchassant ce grand secret qui a été révélé à Victor Hugo dans les tables qu'il faisait tourner pour essayer de contacter sa fille Léopoldine, qui était morte jeune. Et donc, c'est toute cette histoire que j'ai voulu créer. Pendant ce temps, au 21e siècle, aujourd'hui, une jeune fille. Va chercher un professeur d'université pour essayer de comprendre certains documents de Victor Hugo qu'elle ne comprend pas et qui révèle petit à petit une partie de ce secret. Donc oui, il y a ça. J'aime bien prendre des gens vivants, et de m'insérer effectivement dans les trous de leur vie, dans les petits interstices qui font qu'il a pu se passer une chose ou une autre. Voilà, c'est comme un peu dans Les Voies d'Anubis, hein, qui est un très beau livre de Tim Powers, et qui aussi fait un peu la même chose, mais avec les poètes anglais du fin 18e, début 19e, et très très intéressant aussi. C'est un des rares bouquins de science-fiction qui parle vraiment de littérature, et de l'amour de la littérature. Et c'est aussi un petit hommage aussi à ce roman de Tim Powers.
Mais du coup, tu vois, chaque fois que tu rentres par la fente, si on peut dire, par le coin, et tu transformes un écrivain, pour l'occasion, deux écrivains en personnages de fiction, en personnages de littérature. Tu en fais de la littérature.
Oui, mais c'est pas systématique. Dans la fantaisie,
Non, je parle de crimes temporels et de
oui,
ce
tout à fait,
dont tu
oui,
viens de
mais
parler là sur
voilà.
Victor Hugo.
C'est vrai, mais c'est parce que c'est m'amuse d'aller justement dans. En fait, je fais pas quelque chose de différent de ce que faisait Walter Scott en prenant Jean Santerre, Richard Cœur de Lion, etc., et en prenant des personnages historiques et en les remodelant pour créer une histoire qui finalement devient plus réelle. Que les vrais personnages historiques que l'on prend. Quand Alexandre Dumas fabrique le cardinal de Richelieu tel qu'il le fait, il crée le cardinal que nous connaissons, et plus du tout celui qu'il était réellement. Et en fait, c'est cette idée de la littérature qui crée une nouvelle réalité que l'on retrouve donc dans le pendule de Foucault. Et donc, et voilà, on boucle la boucle. C'est ça que j'essaie de faire, quoi.
Oui, que tu fais très bien d'ailleurs, hein, parce que moi j'invite à lire déjà Crime temporel
Oui,
en attendant le
le
prochain.
prochain.
Et c'est vrai que c'est à la fois une histoire de science-fiction,
Oui, tout. Ben
une
oui, c'est de la
société
SF. Hein.
qui n'est plus sur Terre et qui essaye de et qui finalement est pas, enfin à part pour la partie mentor, est pas si peut-être que dans 20-30 ans il y en aura là-haut des bulles avec des gens dedans, enfin
Pourquoi pas?
là-haut en face, je sais pas comment
Oui.
dire là, et puis peut-être pas sur Mars, mais du coup c'est intéressant parce que ça permet effectivement de construire un univers qui et de raconter une histoire avec. On a envie de savoir ce qui se passe comme à chaque fois qu'on lit un policier. Et justement, tu aimes les policiers à part Agatha Christie, j'imagine, non? C'est
Oui,
juste Agatha Christie.
enfin, Agatha Christie, principalement, j'ai lu d'autres romans policiers, bien sûr. Je sais pas, par exemple, Arturo Pérez Reverte, le tableau du maître flamand, mais aussi quelqu'un d'autre qui utilise et qui connaît bien Agatha Christie, c'est Connie Willis, sans parler du chien, qui est une petite merveille,
Oui.
chef-d'œuvre d'humour et de finesse. Hein. D'ailleurs, j'ai failli mettre une épigraphe de Connie Willis dans le livre. Finalement, je me suis décidé, bon, je vais mettre que du Agatha Christie, mais j'ai bien failli. J'ai gardé cette épigraphe très très longtemps de Connie Willis dans Sans parler du chien. Donc oui, il y a plein de romans, mais on peut prendre Neuromancien de Gibson, qui est aussi une enquête policière, même si c'est plus du polar que du whodunit. On a George L. Kiefinger dans le cycle du Bouddha Yin, hein, qui parle d'un privé à la Marlowe qui résout des enquêtes dans un univers cyberpunk. Moi, oui, je suis tout à fait client d'une bonne histoire policière avec un cadavre, et puis il faut aller chercher le coupable et trouver qui a fait le coup jusqu'à la fin. Ça marche encore, puisqu'on continue à sortir des films sur la même trame et qu'on ressort des Agatha Christie
Ah
avec
oui.
Kenneth Branagh qui joue le rôle d'Hercule Poirot. Et puis tous les après-midi, là, je peux me mettre devant ma télé et voir Hercule Poirot avec David Suchet. Il n'y a pas de problème, ça ne bouge jamais de la télévision. C'est parce que c'est très fun.
Oui, puis c'est comme les contes, on connaît la fin, mais parce qu'au bout d'un moment, on finit par connaître la fin, enfin,
Oui,
ce
bien
qui
sûr.
est de les relire.
Mais certains
Mais.
sont quand même tellement bien écrits qu'on a plaisir à retrouver les personnages. Je pense, pour moi, le meilleur Agatha Christie, la meilleure enquête et la meilleure intrigue, c'est le Noël d'Hercule Poirot.
Ah oui.
Mais le Vallon aussi est une très belle histoire. Donc il y a plein de. Moi, je pense que beaucoup de gens qui snobent un peu Agatha Christie, justement par son succès littéraire, mais en fait, c'est un très bon écrivain si on lit très attentivement ce qu'elle fait, comment elle écrit et comment elle présente ses personnages et ses décors.
Mais as-tu essayé de la lire en anglais?
Voilà, non,
Non.
ça j'ai un peu de mal. J'arrive à lire l'italien, mais
Oui, je
l'anglais,
sais,
c'est un
puisque
peu.
tu as fait tes études là-bas.
Ouais, non, j'ai enseigné là-bas.
Tu enseignais
Oui.
l'italien,
Non, le français.
le français.
Oui, j'étais directeur des cours du Centre culturel français de Sicile pendant 2 ans. Mais
Ah,
j'étais
d'accord.
déjà bilingue italien avant.
Ah,
Mais
c'est une
bon,
belle aventure, ça, oui.
l'anglais, j'ai plus de mal. L'anglais pour gamer, c'est-à-dire pour comprendre comment tomber un boss, j'arrive à le comprendre, mais je peux pas lire la littérature en anglais.
D'accord, bah du coup, c'est quand même. Parce que souvent, ces policiers étaient au début pas forcément très bien traduits. Donc,
Et là, sur
tu passais à la terreur.
l'édition du Masque, c'est une nouvelle traduction et avec comment dire, une analyse, une postface à chaque fin de roman. Il y en a 6 par volume et qui est vraiment très intéressante parce qu'elle montre comment Agatha Christie a créé le truc, à qui elle a dédicacé, à qui elle pensait, etc. C'est vraiment très bien fait. On pourrait prendre uniquement les petites postfaces. Je ne sais plus qui est le préfacier, mais en faire vraiment une analyse de l'œuvre d'Agatha Christie.
Voilà, je regarde les questions que je me suis notées pour ne pas oublier, parce qu'il y a tellement de choses dans ton roman que. Et voilà, il y a une question, je vais te la reposer, mais dans un autre sens. Plutôt par rapport, là, à ce moment-là, pas par rapport à Crime temporel forcément, mais par rapport à l'auteur de SF que tu es, est-ce que la SF ne nous raconte-t-elle pas, on voit des gens qui circulent dans des vaisseaux, surtout dans le Planète Opéra, là, ils circulent de planète en planète, ils font des sauts, alors il faut 8 jours, enfin, une semaine pour aller rien que sur la Lune. Et en même temps, tous ces gens sont enfermés. Ils sont toujours dans des boîtes, ils sont dans des vaisseaux, ils ne peuvent pas en sortir, ou ils sont sur des planètes nues comme Mars, par exemple, ou la Lune, ils ne peuvent pas en sortir. Est-ce que ça ne te paraît pas un peu étrange, enfin étrange, je ne sais pas ce que tu en dis, toi, qu'on va vers l'espace, on va vers l'immensité, mais qu'on est toujours enfermé, en fait.
Je sais pas, mais je suis en train de réfléchir, effectivement, dans le SF que j'écris, c'est généralement de l'indoor, effectivement, et puis dans la fantasy, c'est plutôt de l'outdoor, hein. Il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Effectivement, quand j'écris de la fantasy, c'est plutôt. Les gens se baladent à cheval sur des très très grandes distances dans la science-fiction. C'est vrai que c'est des vaisseaux, donc il n'y a pas d'extérieur, on est toujours à l'intérieur dans les interactions. C'est pas du tout la même chose qu'une bande d'aventuriers à cheval en bivouac. Oui, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est la science-fiction ou la fantasy en général. Faut se poser la question. Mais je pense quand même que c'est une question aussi de. Ouais, parce que dans la fantaisie, malgré tout, on est dans un univers moyenâgeux où on se
Oui.
protège de l'extérieur, hein, avec des murailles, avec des palissades, avec énormément de choses qui font que c'est la nature qui est hostile. Dans la science-fiction, c'est l'espace qui est hostile. L'espace lunaire, l'espace martien ou l'espace. Donc il y a toujours une forme d'idée de se regrouper et donc de générer des interactions sociales encore plus complexes, bien sûr, puisqu'on est. Comprimés
Tout à
ensemble.
fait, oui, on est
Voilà. Mais
enfermé.
bon, on peut étudier. Ça peut s'étudier comme idée, ça, pour voir s'il y a vraiment une réelle différence.
Oui, parce que c'est, enfin, je veux dire, quand je vois ton écriture, effectivement, j'ai lu ta fantaisie, il y a des paysages magnifiques, les gens, enfin, moi, c'est ça que j'aime dans la fantaisie. Dès que les gens sont dans un château, que tout se passe dans un château, j'ai du mal, hein, j'avoue
Pourtant,
que.
j'ai créé ce château qui se balade d'îlot en îlot et qui est labyrinthique, le Tétrastyle et le Kantar, dans le cœur du monde, que j'ai bien aimé parce que je trouvais qu'il avait une sorte de. Ouais, c'est pour ça qu'il s'appelle Cœur du monde, de toute façon. C'est vraiment l'idée de la ville tentaculaire dont on ne voit jamais la fin, un peu comme dans Jane Wolfe. Le cycle de la Terre mourante.
Ah oui. Ouais, du coup, c'était juste en fait, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écrivains qui font les deux, quoi, qui écrivent les deux types de littérature.
Alors là, j'ai toujours cette question, mais pour moi, elle est pas pertinente. Pas contre, mais moi,
Oui, vas-y.
tous les écrivains que j'ai lus écrivaient de la fantasy et de la science-fiction. À part quelques Asimov et Clarke qui sont des arts scientifiques, même Robert Heinlein écrit un roman de fantasy qui finalement devient de la science-fiction, En route de la gloire, qui est très très bien d'ailleurs. Mais la plupart de. Spielberg, par exemple, est un des grands maîtres de la science-fiction. Et quand il a arrêté d'écrire pendant 5 ans, il revient avec un ouvrage de fantasy incroyable, Les Chroniques de Magipour, hein, et tout le cycle de Magipour. Hein. Quand je lisais quand j'étais gamin, je ne me posais pas la question, j'achetais un bouquin ou un autre. Il y avait marqué SF, mais c'était souvent de la fantasy.
Oui, c'est différent.
Jack Vance, c'est pratiquement impossible de savoir si c'est de la fantasy ou de la science-fiction. Cycle de Cha, il y a effectivement une partie SF, puisqu'on est sur notre planète dans laquelle on arrive avec un vaisseau spatial, mais le reste, même chose pour les cycles de l'Écumène d'Ursula Le Guin, hein. C'est des fois de la fantasy. Moi, je fais pas de différence dans les thématiques. Je fais différence stylistiquement, parce que je n'écris pas de la même façon quand j'écris de la fantasy et de la science-fiction, mais pas du tout dans l'approche, parce que c'est de la littérature de l'imaginaire toujours, et c'est ce que je disais quand j'étais gamin, sans faire attention à la classer dans un genre ou un autre.
Ben, voilà, c'est une très bonne définition de l'imaginaire que tu viens de nous donner. Effectivement, souvent on lit les deux, mais pas forcément, ça dépend des.
Il y a des
Ça
gens
dépend.
qui disent j'aime pas la fantaisie ou j'aime pas. Bon, il faut toucher un petit peu à tout et puis lire un petit peu de tout. C'est pas, et puis bon, on peut tomber sur quelque chose de mauvais et puis tomber sur quelque chose de bien. Il faut surtout faire confiance aux gens qui lisent et qui nous permettent d'avoir des conseils. Hein. Mais bon, moi j'écris de la fantaisie parce que j'adore la fantaisie. Et en tant que lecteur de fantaisie, j'ai vraiment envie de créer un univers de fantaisie.
Oui, puis c'est un univers très, enfin, qui est particulièrement, enfin, je le dis, je les ai lus, donc je peux en parler. Pour la fantasy, je les ai lus sans, enfin, d'un coup, j'attends la fin parce qu'il y a un cycle qui n'est pas terminé. Et c'est vrai
Malheureusement,
que
ouais.
c'est.
J'ai continué, hein. J'ai le tome 5 là dans l'ordinateur, il est là. Et mon agent essaie de trouver un éditeur, mais malheureusement, comme l'archipel a cessé de faire sa collection fantasy, je ne peux pas finir mon cycle. Mais bon, tout est là.
Oui, c'est dommage, il va falloir encore attendre.
Oui.
Et du coup, relire les autres en attendant, tu
Attends, ouais. Relire c'est bien,
me
moi j'adore relire, ça permet de voir comment et puis de retrouver les personnages qu'on aime.
Oui, puis de peut-être plus facilement, parce que quand on lit, bon là, c'est comme pour Crime temporel, on a envie de voir où elle va arriver, où elle en, donc il y a sans doute des choses qui nous échappent, et relire un livre, c'est vrai que ça nous permet de le lire d'une façon plus tranquille. on sait comment ça va se terminer, et on relit pour voir comment il a été écrit, comment il a fait pour nous emmener, l'écrivain ou l'auteur, l'autrice. Enfin, donc, c'est vraiment intéressant. Ouais. Je ne trouve pas mes mots, mais c'est parce qu'effectivement, c'est difficile à exprimer cette relation avec le livre.
C'est ce qu'on appelle le sense of wonder, de retrouver quelque chose qui est à la fois qui nous étonne, qui nous plaît, qui n'était pas traduisible vraiment aux États-Unis et même à l'époque. Moi, je lis Robin Hobb, par exemple. Je suis toujours, même si je connais tout le cycle de l'assassin, et pourtant il y a 40 tomes, peut-être, mais j'ai toujours du plaisir à retrouver le fou, à retrouver l'assassin, et même en les relisant, à retrouver ce personnage fascinant, quoi, et les univers qu'il visite.
Oui, une fois qu'on sait ce qui est arrivé au personnage principal, on n'a plus peur pour lui, quoi.
Voilà. Ou alors, on appréhende le moment où ses compagnons vont mourir, mais bon.
Oui,
mais bon, c'est comme ça, c'est fait partie malheureusement des émotions que nous procurent les livres.
C'est sûr. Voilà, bah écoute, je crois qu'on a un peu fait le tour, on a bien discuté. Donc, je vais remontrer le livre. Donc, il est en librairie, hein. On le trouve facilement.
Oui. Il est sur les sites.
Sur les sites, on peut le trouver aussi, effectivement, je pense, sur le site de la FNAC ou les
libraires.
Oui,
tout à fait, voilà.
On peut le commander.
On peut le commander, oui.
Voilà, donc l'éditeur, le livre n'est pas épuisé. Hein.
Non, non.
Et c'est vrai, il a une belle, très belle couverture donc, de Manchu, comme tu disais tout à l'heure. Et puis surtout,
j'aime beaucoup Manchu, c'est un très très bel illustrateur qui a commencé dans le jeu de rôle en plus, puisqu'il faisait les dessins intérieurs d'Empire Galactique, un vieux jeu des années 80. Et après, il a fait énormément de couvertures, dont la couverture de La Stratégie Under de Scott Card et de La Voix des Morts, qui sont de très très belles couvertures. Donc
il est très créatif.
Oui, c'est vraiment très très. Il y a eu une exposition il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, de ses œuvres à Nantes, aux Utopiales de Nantes, qui sont des très grands formats. C'était vraiment très beau.
Ah oui, puis il en a fait. Hein, il continue en plus. Il sort encore des très belles couvertures.
Je crois que lui et Casa sont vraiment les deux grands, grands illustrateurs. Si on remonte, il y a Siodmak, etc. etc. Mais sur les années 90-2000, etc., ils sont vraiment les deux grands illustrateurs.
Donc, ce qui fait que c'est encore plus intéressant. Ça fait de beaux livres en plus, de beaux objets. Donc, je répète, Crime temporel de Paul Karta. Donc, une idée donc du voyage dans le temps qui est assez originale.
Qui vous donne
une idée de ce qu'on peut faire avec une machine à remonter le temps, hein, parce qu'il y en a des romans sur les machines à remonter le temps. Mais c'est vrai que c'était oui, il n'y a pas d'autre mot, c'est assez original parce que je n'y aurais jamais pensé. En tant que lectrice, j'aurais jamais pensé qu'on m'emmènerait voir Agatha Christie sur la Lune. La Lune dans quelques siècles. Et du coup, je vous le conseille parce que c'est une histoire mystérieuse, bien sûr, et puis parce que c'est tout un univers original. Et c'est quand même un de tes points forts en tant qu'écrivain de nous emmener dans des voyages, que ce soit dans la nature ou même dans la science, science imaginée, qui est vraiment fantastique. Moi, je l'ai pris, je l'ai lu et je l'ai posé. Quand je l'ai posé, je l'avais terminé. Donc, je le conseille.
Merci. C'est gentil.
Puis, j'espère que je te lirai bientôt aussi.
J'espère que mes prochains mots vont bientôt sortir. Je suis en train d'en écrire un autre là en ce moment.
Ah oui, bah écoute, ne t'arrête pas, hein, parce que c'est vrai qu'attendre qu'un éditeur se décide, ça freine des fois l'écrivain dans son élan sur autre chose.
Mais bon, là, je me suis remis à l'écriture, ça fait plus d'une semaine, je me suis remis.
Ah, et c'est de l'ASF ?
C'est fantastique, c'est du supernatural, vous voyez ? Buffy contre les vampires, supernatural, de la bitlib.
Ah oui.
C'est différent. Voilà, mais bon, C'est un genre que j'avais envie d'essayer depuis longtemps.
Eh ben, écoute, je te souhaite bon moment d'écriture.
Merci.
Profite de l'été pour ça. De toute façon, comme on est enfermé par la
Voilà,
chaleur, hein, autant
exactement.
en profiter pour écrire et lire. Bon, ben, je te dis au revoir. Merci
Merci
beaucoup
beaucoup.
d'être venu et puis à très bientôt à Nice, en tout cas.
À bientôt. À une prochaine
Alors,
fois.
au revoir, Paul
Au revoir.
Tartin.
Merci.
Merci.